Vous écoutez, on lit pour vous.
Les droits des femmes, hier et aujourd'hui, nous avons le pouvoir de transformer le monde. Un entretien avec Nyaradzai Gumbonzvanda, paru le 22 janvier 2025, sur la page d'ONU Femmes. Hashtag pour toutes les femmes et les filles est un appel à l'action à l'occasion du 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing. Nyaradzai Gumbonzvanda, du Zimbabwe, directrice exécutive adjointe d'ONU Femmes, revient sur son expérience lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes en 1995 et sur la pertinence que revêtent encore aujourd'hui la Déclaration et le Programme d'action de Beijing. La Déclaration et le Programme d'action de Beijing, un cheminement en faveur de l'égalité des droits, de l'égalité et du pouvoir. Pour beaucoup d'entre nous, qui étions présents à la 4e conférence mondiale sur les femmes, la Déclaration et le Programme d'action de Beijing s'inscrivait dans un horizon qui allait durer toute notre vie. Nous savions que, pour le reste de notre vie, notre combat serait consacré à la défense de ces valeurs. Nyaradzai Gumbonzvanda n'avait pas encore 30 ans lorsqu'elle se rendit à Beijing, en Chine, pour assister à la 4e conférence mondiale sur les femmes en 1995. Elle figurait parmi les plus de 30 000 activistes de la société civile et 17 000 délégués chargés de plaider, de délibérer et d'approuver l'accord adopté par 189 pays, la Déclaration et le Programme d'action de Beijing. Il s'agit là du plan en faveur des droits des femmes et des filles, le plus progressiste et le plus largement approuvé à travers le monde. Nyaradzai Gumbonzvanda était enthousiaste à l'idée d'assister à la conférence, mais il lui fallut d'abord trouver quelqu'un pour s'occuper de ses deux petites filles. À l'époque, comme aujourd'hui, les formalités pour organiser un voyage à Beijing étaient de taille, insiste Nyaradzai Gumbonzvanda. Pour les féministes, c'était, et cela reste, un voyage pour répondre à leurs attentes profondément ancrées quant au fait que les droits des femmes sont des droits humains et que les femmes et les filles veulent être traitées sur un pied d'égalité. En quoi la 4e conférence mondiale sur les femmes était-elle importante? Et comment la Déclaration et le Programme d'action de Beijing ont-ils changé la cause des droits des femmes? En se remémorant des moments qui l'ont marqué, Nyaradzai Gumbonzvanda dit « Je me souviens des femmes du Pacifique. Elles avaient toujours des fleurs. J'y ai rencontré des femmes noires qui ne venaient pas d'Afrique. Et nous nous retrouvions dans une assemblée mondiale de femmes où nous pouvions parler dans notre langue maternelle, pas seulement en anglais. Ce qui m'a le plus marqué, c'était d'appréhender le monde des femmes dans toutes ses diversités et de prendre conscience que nous faisions face aux mêmes problèmes de discrimination et que notre potentiel et nos expériences n'éclairaient pas les décisions qui étaient prises. J'ai compris que, tant par nos efforts individuels que collectifs, nous pouvions faire bouger les choses. Nous avons le pouvoir de transformer ce monde. La 4e conférence mondiale sur les femmes de 1995 à Beijing était l'aboutissement de nombreuses années d'organisation par des féministes, explique Nyaradzai Gumbonzvanda. En 1980, nous nous étions réunis pour la 2e conférence mondiale sur la condition de la femme à Copenhague, où nous avions plaidé en faveur de la justice sociale et de la position des femmes dans la société. En 1993, nous nous étions réunis pour la conférence mondiale sur les droits humains à Vienne, où les femmes du monde ont déclaré que les droits des femmes sont des droits humains, déclaration ensuite reprise lors de la conférence de Beijing. Nous venions également de nous réunir en 1994 au Caire pour la conférence internationale sur la population et le développement pour discuter de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes. Le mouvement environnemental des femmes était, lui aussi, très fort. Si vous reprenez le libellé du programme d'action de Beijing, vous constatez qu'il est imprégné de l'éthique de tous ces enjeux. Les droits des femmes sont interdépendants. La déclaration et le programme d'action de Beijing incarnaient la notion d'interdépendance des droits. Si j'ai le droit à l'éducation, cela signifie que j'ai la capacité de participer à la vie politique. Si j'occupe un poste de prise de décision, je peux avoir de l'influence sur l'économie. Lorsqu'on investit dans des mesures pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, on constate une hausse de la participation économique des femmes. Même si des femmes et des féministes de tous horizons et de toutes les régions du monde ont assisté à la 4e conférence mondiale, Nyaradzai Gumbonsvanda reconnaît que pour certaines d'entre elles, il ne fut pas facile de s'y rendre. La Chine était loin, et il fallait obtenir un visa et les fonds nécessaires, sans parler des formalités administratives difficiles à comprendre. La langue était autant un obstacle qu'elle peut l'être aujourd'hui, faute de moyens suffisants pour assurer des services d'interprétation pour toutes les réunions. L'importance de la représentation. Le simple fait d'être présent en soi est absolument fondamental, explique Nyaradzai Gumbonsvanda. La conférence à Beijing fut dirigée par Gertrude Mongella, qui était députée de Tanzanie et diplomate de l'ONU. Le fait de voir Mama Gertrude Mongella modérer les séances fut une source d'inspiration pour toutes les femmes présentes. Elle nous montrait qu'il était possible d'assumer un rôle de leadership. Un monde de possibilités se présentait ainsi à nous. Quels ont été les principaux accomplissements de la déclaration et du programme d'action de Beijing et à quels obstacles les droits des femmes sont-ils actuellement confrontés? Il a été formidable de voir le nombre d'organisations de femmes créées ou renforcées à l'issue de la déclaration et du programme d'action de Beijing, déclare Nyaradzai Gumbonsvanda. La conférence a marqué une impulsion en matière d'organisation et de mobilisation. Vous écoutez, les droits des femmes hier et aujourd'hui, nous avons le pouvoir de transformer le monde, un entretien avec Nyaradzai Gumbonsvanda, paru le 22 janvier 2025 sur la page d'ONU Femmes. Impulsion pour organiser et financer l'action en faveur des droits des femmes. Le pouvoir collectif des femmes est devenu très visible à la conférence de Beijing, ajoute-t-elle. Et de celui-ci est née une profonde conviction selon laquelle le mouvement des femmes doit trouver des moyens créatifs de s'autofinancer et de financer la cause féministe. Aujourd'hui, les tâches administratives sont beaucoup plus lourdes, ce qui limite la participation des femmes. Partout, l'obligation de rendre compte est très importante, mais il faut aussi laisser de la place à l'auto-organisation, explique-t-elle. Certaines organisations communautaires de premier plan continuent de faire leur travail, mais peuvent manquer de fonds en raison de la complexité, de la lourdeur et des moyens technologiques requis pour atteindre les seuils d'accès à des financements. Selon le rapport du secrétaire général de l'ONU, moins d'1% de l'aide publique au développement est consacrée à des organisations de défense de l'égalité des sexes. élan pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et le rôle des femmes dans la paix. La question de la violence à l'égard des femmes a été mise en avant lors de la conférence. L'année suivante, en 1996, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant à la création du Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, précise Niarad Zayi Gumbonzwanda. Géré par ONU Femmes, le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies a accordé 225 millions de dollars à 670 initiatives pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles dans différentes régions du monde. La déclaration et le programme d'action de Beijing ont également contribué à une hausse significative du nombre de lois destinées à lutter contre la violence domestique, à renforcer les services fournis aux survivantes et à améliorer la collecte de données sur la violence à l'égard des femmes. S'agissant de l'impact du programme d'action de Beijing sur les femmes touchées par les conflits, Niarad Zayi Gumbonzwanda estime que cette cause, vivement défendue lors de la conférence, s'est inscrite dans le temps long grâce à des actions de plaidoyer. En 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, et depuis, nous commençons à voir davantage de femmes participer au processus de paix et aux médiations. Les droits des femmes et l'économie. Lorsqu'on lui demande quel domaine nécessite davantage d'impulsion, Niarad Zayi Gumbonzwanda cite celui de l'économie. Nous devons changer le discours autour des femmes et de l'économie. Tout d'abord, nous devons préciser que le PIB d'un pays ne se traduit pas par l'égalité des chances pour toutes les femmes de ce pays et ne signifie pas que les femmes vivent une vie sans violence dans ce pays. Lorsque le PIB de pays à revenus faibles et intermédiaires augmente, l'aide publique au développement diminue. Nous devons nous doter d'un modèle de développement international qui soutienne et pérennise les avancées sur l'égalité des sexes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. La dette est un autre grand problème qu'il faut traiter, d'après Niarad Zayi Gumbonzwanda. Les pays continuent d'emprunter à des taux d'intérêt très élevés, et ce, alors qu'ils n'ont pas fini de rembourser leurs emprunts précédents. Cela se répercute sur leurs investissements et par conséquent sur les progrès réalisés en matière de droits des femmes, explique-t-elle. Quelles leçons les mouvements féministes d'aujourd'hui peuvent-ils tirer de l'ère de la conférence de Beijing face au recul des droits des femmes? La marge de manœuvre pour les femmes a toujours été restreinte, explique Niarad Zayi Gumbonzwanda. Je suis née pendant la colonisation de mon pays. Pour certaines personnes, cette marge de manœuvre n'a jamais pleinement existé, ni à l'époque, ni maintenant. Le patriarcat a toujours été de mise et il a limité la marge de manœuvre laissée aux femmes. Jusqu'à encore récemment, dans de nombreux pays, les femmes n'avaient pas le droit de voter, d'ouvrir un compte bancaire, ni de posséder de terres. Dans un contexte de migration, la marge de manœuvre quant aux règles relatives à la liberté de circulation se réduit comme peau de chagrin. La marge de manœuvre dont nous disposons aujourd'hui a été gagnée à l'issue d'âpres combats. Nous ne pouvons pas la tenir pour acquise. Niarad Zayi Gumbonzwanda insiste également sur le fait que le recul des droits des femmes se produit dans un contexte d'insécurité mondiale. le programme d'action de Beijing s'intéresse fondamentalement au vécu, dit-elle. Il ne cherche pas à savoir à qui revient le dernier mot lors de négociations politiques. Il s'intéresse au vécu de toute personne en ce moment même, qu'elle fasse actuellement l'objet de discrimination, que ses droits soient bafoués ou ses chances limitées. Nous ne devons pas perdre de vue que dans tous les cas, il s'agit de personnes. Nyaradzai Gumbonzwanda adhère à ce principe dans ses conversations avec les États alors qu'ils font le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme d'action de Beijing 30 ans plus tard. Lorsque les États membres négocient, tout ce que je veux, c'est arriver à la bonne décision pour protéger le bien-être des personnes, pour les aider à vivre dans la dignité, dit-elle. Le monde d'aujourd'hui a soif de dignité et d'empathie, d'inclusion et de non-discrimination. Comment faire pour répondre à ces besoins? Comme nous l'avons fait à Beijing, nous devons énoncer clairement ce que nous entendons par là. Lorsqu'il y a discrimination, nous devons nommer les formes de discrimination, car nommer, c'est savoir. Et en nommant, nous comprenons où se situent les problèmes et, par conséquent, où se trouvent les solutions. C'était Les droits des femmes d'hier et aujourd'hui. Nous avons le pouvoir de transformer le monde. Un entretien avec Nyaradzai Gumbonzwanda, paru le 22 janvier 2025, sur la page d'ONU Femmes.
Santé mentale en prison, elle parle au mur. Un texte de Manon Legrand paru le 7 janvier 2025 dans Axel. Un désert. Voilà qui pourrait résumer la problématique des soins en santé mentale pour les femmes en prison, qui compose 4 à 5 % des personnes détenues. Pourtant, les besoins ne manquent pas. Et pour répondre aux problèmes rencontrés spécifiquement par les femmes, une approche genrée de la santé est plus que nécessaire. En matière de santé en prison, c'est difficile pour tout le monde, mais ça l'est encore plus pour les femmes. Voilà comment la situation est résumée par Marion Guémas, coordonnatrice de recherche et de plaidoyer au sein d'iCare en Belgique. Cette association, créée en 2015, travaille sur l'accès aux soins et à la promotion des soins de santé en milieu carcéral. Depuis des années, les soins de santé en prison sont montrés du doigt. En 2022, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, CPT, soulignait que, pour ce qui est des services de santé dans les prisons visitées, Anvers, Lantin et Saint-Gilles, les dotations et les temps de présence du personnel soignant étaient clairement insuffisants. Des troubles importants. Les besoins sont pourtant nombreux. Les troubles de santé mentale sont davantage présents dans la population carcérale qu'ailleurs. Cela s'explique par le fait que les personnes en prison ont souvent connu un parcours émaillé de multiples difficultés qui ont déjà pu affecter leur santé avant leur incarcération. Et l'enfermement vient aggraver cette détresse. Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, KCE, a effectué en 2017 un rapport sur cet enjeu à la demande des ministres de la Santé et de la Justice. On y lit que le milieu carcéral compte jusqu'à 3 fois plus de personnes atteintes de troubles psychiatriques et jusqu'à 8 ou 10 fois plus de troubles liés aux usages de drogue que dans la société libre. Ce rapport révèle aussi que près de la moitié des prescriptions délivrées dans les prisons belges concernaient des médicaments actifs sur le système nerveux, antidépresseurs ou anxiolytiques, notamment indiqués en cas de troubles du sommeil, de dépression, de psychose ou encore de dépendance aux opioïdes. Même constat du côté du Conseil central de surveillance pénitentiaire, CCSP, qui a fait de la santé mentale son thème de l'année 2024. Dans son rapport annuel de 2023, Il souligne que de plus en plus de détenus souffrent de problèmes de santé mentale ou développent des troubles mentaux à la suite de leur incarcération. Et d'interpeller aussi sur le fait que le monde extérieur semble souvent sous-estimer l'importance de soins de santé mentale adéquats, en particulier lorsqu'il s'agit de détenus et de personnes internées, présumant facilement que toute incarcération est le résultat d'un crime. Cependant, il est essentiel que le public prenne conscience que le crime qui précède l'incarcération peut être le résultat d'une maladie mentale. Les femmes plus concernées. Les femmes détenues seraient davantage concernées par une détresse psychologique sévère que les hommes, 52 % contre 36 % chez les hommes. Et plus de la moitié d'entre elles se voient prescrire des traitements psychotropes, 56 % contre 34 % chez les hommes, relève Marion Guémas, sur base d'une étude de l'Université de Gand réalisée en 2019 et portant sur la santé psychique de la population carcérale belge et néerlandaise. Elle souligne aussi que peu de données existent sur la situation socio-sanitaire des femmes et des hommes en prison. Dès lors, quelle réponse apporter quand on ne sait déjà pas quelles sont les problématiques rencontrées? La consommation de substances constitue en effet l'une des vulnérabilités individuelles récurrentes observées chez les femmes en prison, relève Valentine Dauphiny, doctorante au département de criminologie de l'Université de Liège, qui étudie le profil des femmes incarcérées en Belgique francophone. Le service psychosocial des prisons met à disposition des psychologues. Problème, elles, ils sont insuffisants pour répondre à la forte demande. Il faut rappeler que les prisons belges sont parmi les plus surpeuplées d'Europe, comme le relevait le Conseil de l'Europe en juin 2024, et que l'effectif pénitentiaire n'est pas réévalué en fonction de l'occupation réelle de la prison. De plus, ces psys ont pour mission d'évaluer le déroulement de la détention, explique la travailleuse d'iCare. Cela a pour conséquence que tout ce que la personne détenue leur dit peut jouer sur sa peine. L'association plaide depuis longtemps pour que soient transférées les compétences en matière de santé pénitentiaire du SPF Justice vers le SPF Santé publique. Des femmes peuvent aussi avoir peur du psy, selon leur culture et croyances. D'autres ont peur d'être prises pour folles et redoutent d'être transférées en psychiatrie. Donc, elles baissent la tête et exécutent leur peine en silence, observe Céline Cuvelier, artiste qui mène depuis plusieurs années des ateliers avec des femmes en prison. Les femmes sont pour beaucoup médicamentées et sans suivi psychologique, complètement livrées à elles-mêmes, explique-t-elle. À partir des récits que les femmes lui rapportent, elle soulève aussi la question de la langue comme autre barrière dans l'accès aux soins. Les femmes au second plan. Depuis 2023, le SPF Santé publique a recruté une dizaine de psychologues, dites de première ligne, afin de proposer un accompagnement psychologique généraliste à l'ensemble des personnes détenues qui en font explicitement la demande. Mais ils, elles, sont trop peu nombreuses pour le nombre de détenus et gèrent donc surtout l'urgence, explique Marion Guémas. De plus, comme toujours, les kinés et psys suivent les femmes s'il reste du temps. À la différence des hommes également, les femmes jugées irresponsables de leurs actes ne disposent pas de place en annexe psychiatrique, sauf à Bruges. Cela implique qu'elles ne bénéficient pas d'un suivi spécifique. Cela n'est pas sans conséquence non plus sur les autres femmes, confrontées à la détresse psychiatrique de leurs codétenus, poursuit la travailleuse d'iCare. J'ai aussi en mémoire l'expérience d'une femme, auteure d'infanticide, qui a dû demander elle-même d'être internée en psychiatrie à sa sortie, parce qu'elle ne se sentait pas apte à reprendre la vie, relate Céline Cuvelier. En outre, depuis la fermeture de Berkendael en 2022, aucune prison n'accueille spécifiquement des femmes. Elles sont donc rassemblées dans des quartiers femmes, au sein de prisons où les besoins des hommes passent souvent en priorité par rapport aux leurs. Accès aux préaux, aux activités ou aux soins de santé, relève Marion Guémas. Les services comme iCare disposent de psychologues, mais pas assez pour répondre à la demande. L'association se démène aussi pour porter des projets spécifiquement destinés aux femmes, autour des questions Evras ou de la précarité menstruelle, par exemple. Quant au soutien familial ou social, il est souvent faible. Si les femmes sont fort présentes pour leurs proches en prison, la symétrie n'opère pas. Elles se confient beaucoup dans les ateliers parce qu'il n'y a pas d'espace ailleurs, relate Céline Cuvelier. Il suffit souvent de poser une question et elles se mettent à raconter leur histoire. Violence et santé mentale. Une majorité de femmes en prison a vécu des violences physiques, psychologiques et ou sexuelles durant l'enfance et ou l'âge adulte. La victimisation passée a d'ailleurs été largement mise en évidence par de nombreuses études qui ont par ailleurs analysé l'entremêlement des figures de victimisation et de délinquance dans le chef d'une seule et même personne, souligne Valentine Dauphiny. Pourtant, le sujet n'est pas du tout pris en compte durant leur détention et les professionnels, notamment en santé, qui travaillent dans les prisons, ne sont pas formés à la question, déplore Marion Guémas. La prison pour les femmes peut être un lieu de répit, de protection. Elle peut aussi constituer un moment de réflexion ou encore de réminiscence des violences également, remarque-t-elle. Il s'agit donc d'un moment clé dans lequel il est indispensable de prendre soin de ces femmes et de leur santé, durant leur incarcération, mais aussi en vue de leur réinsertion dans un système d'aide et de soins à leur sortie. Dans cet objectif, iCare mène à la prison de Mons le projet Wonder Woman Resilience, WOW, pour accompagner les femmes victimes de violences. On propose des activités collectives en collaboration avec des pères aidantes de l'association Brise le silence, afin de permettre aux femmes de mettre des mots sur leur vécu et de préparer leur sortie, relate Marion Guémas. Le projet est soutenu pour un an. Et ensuite? On se pose évidemment la question de l'après. On ouvre un espace de parole, mais que se passe-t-il quand les femmes regagnent leurs cellules? Ce qu'on fait est une goutte d'eau dans l'océan, conclut Marion Guémas. Ou une oasis dans le désert. C'était « Santé mentale en prison, elle parle au mur », un texte de Manon Legrand paru le 7 janvier 2025 dans Axel.